Tu es pédopsychiatre, tu es psychanalyste, tu es devant l'Éternel thérapeute de couple et de famille. Et là, il y a une salve de présidence, président de l'Institut de recherche en psychanalyse du couple et de la famille et président fondateur de la section européenne de l'EFPP, tu vas nous en dire un peu plus, président de la section psychanalyse de couple et de famille. Voilà, donc écoute, en un mot comme en mille, nous sommes vraiment ravis de t'accueillir.
Alors moi aussi, évidemment, je suis ravi. Aujourd'hui, je vais plus rentrer mon propos sur ce que je propose d'appeler les anamorphoses. Et d'articuler anamorphose et périnatalité en situant, mais je pense que je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous parler du scénario généalogique préconceptionnel. Alors, effectivement, la question du corps, au-delà du corps anatomique, je crois qu'il est intéressant de se rappeler, là, pour introduire le propos, ce que beaucoup savent, mais peut-être pas tous, qu'il y a une grande différence entre la notion de schéma corporel et que la notion d'image du corps au sens de l'image inconsciente du corps. Et que le schéma corporel, en fait, c'est une notion neurophysiologique, c'est-à-dire l'intégration de l'ensemble de nos positions, de tout ce qu'on est, de façon neurologique, de telle manière qu'on n'a pas besoin de regarder où est sa tête pour passer la porte. Hein, on a une espèce d'intégration. Mais ça n'a rien à voir avec l'image inconsciente du corps et avec les dimensions du corps psychique, savoir aussi bien, et je trouve qu'une des manières de bien l'illustrer, c'est de penser à l'anorexie. Dans l'anorexie mentale, classiquement, il y a cette jeune qui se voit grosse. Elle se voit, elle s'imagine grosse. Mais là, on est du côté du conscient. C'est-à-dire qu'on est du côté de l'imaginaire. Je me vois grosse. Hein? Et c'est d'un tout autre registre, et c'est un registre mystérieux, que le registre de l'image inconsciente du corps. L'image inconsciente du corps, on n'y a quasiment jamais accès. Hein? L'image inconsciente du corps, on y a accès soit quand ça se parle, alors ça se parle par des expressions symptomatiques, comme par exemple l'anorexie mentale. Qu'est-ce que ça dit de l'image du corps de l'anorexie? Mais qu'est-ce que ça dit à travers des séances en analyse et cette notion d'image du corps est mauvaise au niveau du terme parce que le mot image du corps laisse entendre qu'on est dans l'image et qu'on est dans l'imaginaire. Mais elle est consacrée parce que les travaux de Dolto sont essentiels là-dessus. J'ai un moment préféré le concept de fantasme du corps, qui est de Pierrot Lanier, qui est au sens de fantasme inconscient. Sauf que finalement maintenant je n'aime pas le mot fantasme du corps parce que ça laisse supposer qu'il y a du fantasme et on peut être dans des constructions où il y a même sidération de fantasme, donc on peut même pas parler, mais en tout cas il s'agit de corps inconscient. Alors pour dire ça, Je pense toujours à l'anorexie mentale avec, par exemple, je trouve que c'est intéressant qu'Amélie Nothomb, dans son livre Métaphysique des tubes, vous savez qu'elle en connaît quelque chose sur l'anorexie mentale, et le titre lui-même est tout à fait évocateur, finalement, de quelque chose de l'ordre de l'image du corps. Donc si j'insiste là-dessus, c'est que je vais être amené à parler beaucoup de corps, mais plus du côté de l'image inconsciente du corps, ou de ce que je préfère appeler maintenant corps psychique inconscient. Alors, toujours est-il que on y a accès à travers des projections comme des dessins, et cette petite fille qui dessine son corps nous montre comment elle rend compte de quelque chose à travers ce beau bâton. Et finalement, un peu comme toujours, ce sont les poètes ou les artistes qui essayent de. Enfin, qui essayent. Disons, c'est nous qui nous en inspirons pour essayer de penser des choses qui sont difficiles à penser. Et je vous ai parlé de corps jusqu'à présent à propos de l'anorexie en termes de corps individuel, en image du corps individuel. Et je vais maintenant glisser rapidement. Déjà que la notion d'image inconsciente du corps, c'est pas évident à penser, même si tout le monde en parle, hein. La notion d'image du corps groupal et corps groupal familial, c'est encore moins évident. Mais après tout, puisque ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité de l'anatomie, hein, on peut glisser effectivement au monde d'un corps psychique groupal. Et ce tableau de Portinari, qui est un très grand peintre brésilien, Brésil qui m'est cher, puisque j'y suis professeur invité, j'y passe une partie de mon année. Ce tableau me semble très, très évocateur d'un corps groupal familial. Ce que vous avez bien vu, ce sont ces larmes. Hein? Ça coule des yeux comme ça, hein? C'est la mort d'un enfant. La mort d'un enfant. Hein? La mort d'un enfant, et c'est magistral la manière dont le corps de cette, ce qu'on imagine être évidemment sa mère, hein? Dans ses, il y a les bras, justement, ce qui m'impressionne, c'est cette béance extraordinaire dans lequel, enfin, qui accueille l'enfant, mais qui en même temps qui accueille la béance, enfin, qui est dans la béance, qui est une espèce de. C'est un ventre, mais enfin, qui est une immense béance, quoi, un gouffre. Hein, comme ça. Et comment on a cet ensemble-là, et je trouve que, je ne sais pas si vous ressentez ça comme ça, je trouve qu'on a vraiment cette figuration d'un corps familial, d'un corps familial concerné par le deuil d'une partie de lui-même, à savoir d'un enfant. Hein? Ce que je trouve aussi admirable, c'est justement cet écoulement de pleurs, un jaillissement. Avec, comme vous l'évoquez tout à l'heure, du côté de contenant, comme ça, hein, il y a, avec cette perte-là, quelque chose d'une perte telle que, à la fois, l'ensemble se recroqueville, hein, mais en même temps, il y a une véritable hémorragie de pleurs. Voilà. Et je trouve qu'il y a une véritable hémorragie narcissique. Hein? Voilà. Donc, je trouve que ce genre d'image nous permet d'entrer dans le vif du sujet de quelque chose qui nous permet de penser un corps groupal. Un corps groupal concerné par un vide. Par un deuil. Hein? ce contenant est effracté avec une béance. Voilà, donc c'est cette hémorragie narcissique familiale que Portinari nous illustre. Alors, si on peut penser un corps familial, on va pouvoir penser que il n'y a pas qu'une femme en tant qu'individu qui peut être enceinte, mais on va penser aussi, pourquoi pas, penser que c'était qu'un corps familial peut être enceinte. Donc on va développer ça. Mais avant d'aller du côté de la dimension groupale, qui est la dimension à laquelle je vais me proposer de partager avec vous, en particulier globalement la référence à la psychanalyse du lien et à une conceptualisation que j'appelle la conceptualisation du maillage. Ça, c'est le cadre de ce que je vais vous dire. On va voir comment s'articulent les niveaux individuels et les niveaux de groupe, et en particulier du groupe familial. Je vous dis tout de suite que la manière de le penser, c'est ce que je propose de modéliser dans une approche transcontenante. C'est cette approche transcontenante que je vais essayer de vous présenter. Donc on va voir au niveau individuel, on va penser l'événement que représente pour la femme d'être enceinte, en termes psychodynamiques. Pour le penser, en écho à bébé-adolescence, je pense qu'une des manières de bien penser toutes ces histoires, c'est de penser l'adolescence. L'adolescence est une... il se trouve que je suis pédopsychiatre aussi et spécialisé dans la clinique de l'adolescence, et que j'ai entre autres travaillé particulièrement l'adolescence que j'appelle l'adolescence chrysalide. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence chrysalide ? L'adolescence chrysalide, c'est même le titre d'un livre, c'est une manière de dire que c'est inimaginable de penser que cette chenille, cette chrysalide et ce papillon, c'est le même. Hein? C'est le même, mais ça n'a rien à voir. Donc vous voyez que là, hein, ce sont des mondes radicalement différents. Si on ne comprend pas ça, on peut croire qu'on est dans une continuité de l'enfant à l'adolescence à l'adulte. Non. On est dans des bifurcations radicales, hein, avec des mondes spécifiques. Et ce qui caractérise pour moi, en écho aussi à Dolto, l'adolescence, c'est d'être, comme en analogie à la métaphore du complexe du homard de Dolto, c'est-à-dire effectivement le homard qui perd sa carapace pendant un certain temps, c'est de penser l'adolescence comme une mue de peau psychique. Ce que je propose de reformuler en disant c'est une mue de contenant. Parce qu'on va inscrire tout mon propos dans la clinique des contenants. Une mue de contenant. Donc ça veut dire que cette chrysalide, c'est effectivement une peau. Hein? On perd cette peau comme un serpent qui perd sa peau, qui fait sa mue et qui en retrouve une autre. Hein? C'est une étape complètement spécifique. Vous voyez bien qu'effectivement, tout ce que je vous dis n'a de sens que si on le repense non pas en termes de réalité anatomique, mais dans une réalité psychique, dans une économie inconsciente. Hein? Et donc, je vais imaginer, en analogie, que ce qui se passe pour la femme enceinte, c'est également une mue de contenu. Et ça, ce n'est pas une notion du tout classique. Pas du tout classique. C'est pas du tout classique et c'est considérable parce que si on le pense comme ça, on va voir une lecture de la femme enceinte et de la périnatalité tout à fait nouvelle. En termes de la construction de cette identité chrysalide, de ce passage d'entre deux contenant, je ne développe pas, mais c'est dans la continuité des travaux de Bion, cette mue de contenant est contemporaine d'une mue de l'image inconsciente du corps. C'est, à mon sens, cette mue qui se manifeste parce que Bidlowski, mon ami Monique Bidlowski, a formulé à travers la transparence psychique. Ce qui m'amène d'ailleurs à penser le concept de transparence psychique également, et ça n'est pas décrit, à propos de l'adolescence. Également, il y a une transparence psychique de l'adolescence. Parce que ce sont psychiquement des transformations analogues du point de vue de l'image du corps. L'appareil psychique en périnatalité, qu'on va penser dans la clinique du lien, est effectivement cette construction qui inclut cet appareil psychique de la mère, du fœtus, je le mets avec 3 points, 4 points de suspension, plus en termes de recherche, hein, c'est une grande question, qu'est-ce qu'il en est de l'appareil psychique du fœtus. En tout cas, ce que je ne mets pas en question, c'est l'appareil psychique du moi-couple et de la configuration familiale. C'est la périnatalité, c'est cette construction groupale d'ensemble, hein, cette construction d'appareil psychique qu'on va essayer de repenser sous quelle modalité, sous quelle manière de le modéliser. Alors, je vous ai dit que j'allais proposer une lecture qui est transcontenante. Et cette transcontenance, je vais la penser avec une métaphore que j'appelle les anamorphoses. Alors, les anamorphoses, bon, pour certains, vous y êtes peut-être familiarisés, ce sont les tableaux et les écritures de Baltrusaitis. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des formes d'expression picturale, des peintures, qui, un peu comme le fameux tableau Les Ambassadeurs d'Holbein, qui avait fait l'objet de ce travail de Lacan sur les ambassadeurs, qui est au National Museum, je pense, à Londres. En tout cas, j'ai eu l'occasion de le voir. Et quand on entre dans la salle, il est juste sur le côté comme ça. Et en fait, il faut faire un tour pour le voir. Il occupe tout un mur. Et on voit des ambassadeurs qui donnent les offrandes en tant qu'ambassadeurs au maître du lieu. Et ce tableau a la particularité de montrer caché une figure un peu énigmatique qu'on ne voit pas si on se met en face, qu'on voit si on est dans une certaine position, et on voit à ce moment-là un crâne. Hein. Il y en a qui ont vu, qui connaissent ce tableau, hein, vous connaissez, hein? Non. Ben, je vous invite à le voir. Sauf que ce crâne, il est montré avec une perspective telle qu'effectivement, ça n'est pas reconnaissable. Et bon, alors, la métaphore, il veut que ça illustre un peu en face des offrandes, de la luxure, etc. Qu'est-ce que c'est la vie, la mort et l'humilité, hein? Bon, ça, c'est ça. Alors, en écho à ça, je propose d'appeler anamorphose, finalement un peu comme l'adolescence, un processus qui est phasique, hein, à un moment donné dans une bifurcation, qui est donc à la fois une continuité par rapport à ce processus, mais en même temps bifurcation radicale, avec des remaniements qui mettent en jeu des remaniements psychiques, somatiques et cliniques du lien. L'ensemble s'inscrivant dans un développement singulier, mais aussi groupal. Donc c'est à la fois quelque chose qui concerne la dimension singulière et la dimension groupale. Vous voyez bien que je vais parler par exemple de l'adolescence individuelle, mais aussi de l'adolescence familiale. Et de la même manière, en analogie, je vais parler de la périnatalité à propos de l'événement individuel que représente la grossesse, dont on dira des mots, quelques mots, et en même temps la dimension familiale que représente cet événement dans le cycle généalogique. Donc, naissance comme l'adolescence sont pensées comme des événements. L'événement, c'est une formule, si des personnes connaissent Alain Badiou, c'est en écho aussi à ça, ce concept d'événement qui fait bifurcation dans le cycle de vie individuelle et dans le cycle de vie familiale. Ce qui va mettre en jeu à la fois des modifications individuelles de la contenance et de la contenance familiale. Le livre « Les anamorphoses » ou « Thaumaturgus opticus » montre bien qu'effectivement il y a quelque chose de l'ordre de la vue, de l'approche et d'un certain type de regard, de perspective qui va montrer une image un peu déformée. Alors moi j'aime bien ça parce que je trouve que cette image-là, hein, donc vous repérez effectivement comment à travers un cylindre qui a un miroir courbe, il va projeter une image déformée. Hein. Eh bien, ça me fait penser aux déformations perçues en elle-même au niveau inconscient par l'image du corps, par exemple de l'anorexique. Comment il y a une autre manière de se voir. Mais en même temps, cette perspective-là, je la pense comme un kaléidoscope. C'est-à-dire qu'il y a, comme un kaléidoscope, en même temps un premier cylindre et un deuxième cylindre. Et il y a un premier cylindre qui bouge, un deuxième cylindre qui bouge, et c'est en fait la dynamique de ces deux cylindres qui crée une nouvelle image. Donc ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. Vous voyez bien qu'on est dans de la métaphore de métaphore, hein, qui va laisser entendre que ces co-constructions d'images du corps, entre l'image du corps individuel et l'image du corps groupal, il va y avoir un étayage réciproque. Hein, c'est ça l'idée. Donc la clinique des anamorphoses va être finalement cette clinique de ces contenants qui se transforment mutuels et qui vont avoir dans la manière de se transformer la possibilité de s'étayer mutuellement. Eh bien, dans cette perspective, effectivement, je vais distinguer dans la clinique des anamorphoses la naissance à travers la périnatalité, l'événement puberté, et je propose là de l'appeler péri-adolescence, en analogie à périnatalité. Ce qui m'étonne, c'est que pour l'instant, personne n'a encore employé ce terme-là. Et ménopause, périménopause, on commence à parler de périménopause. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que du point de vue de la clinique, il va y avoir des analogies psychodynamiques tout à fait éclairantes dans ces rapprochements-là, dont je pense que Goltz et Braconnier, à travers leur travail sur le bébé et l'adolescent, font écho de fait. Par contre, je pense qu'ils travaillent moins ces dimensions de contenance groupale, etc. Donc, la périnatalité, dans cette perspective, je la pense comme une anamorphose de l'image inconsciente du corps en kaléidoscope, avec, je me répète, cette co-construction de l'image du corps individuel, du corps couple du corps familial, avec cette notion d'étayage réciproque entre ces différents niveaux de contenance. Ça va nous permettre peut-être de repenser à la question qui était posée tout à l'heure autour de la question du conjugal à l'occasion de l'événement naissance. Des remaniements parce qu'il y a des analogies de forme. C'est-à-dire qu'il y a une analogie entre le corps et ce que je vais vous développer après de l'organisation des liens et ce qui va s'exprimer à travers la notion de scénario généalogique, la dimension de la transmission. Il y a un continuum dans ces analogies de forme et qui vont poser la question de comment on y a accès. Ça pose la question de la figurabilité. Ça, c'est toute une question. Voilà. Juste un mot, je le détaillerai éventuellement dans la discussion. Une des manières pour moi de penser la figurabilité du corps, c'est de penser la figurabilité de l'espace. Hein? Et en particulier ce que j'appelle le spatiogramme, qui est la reproduction de l'espace. L'espace, en particulier l'espace habité, qui va être extrêmement intéressante, en particulier pour les gens qui travaillent à domicile et qui, pour moi, m'intéressent pas mal, puisque j'ai eu l'occasion de créer, je crois, une, sinon la première, antenne mobile de périnatalité avec un travail à domicile. Donc, on va penser à ce moment-là, comme on l'a dit à propos de l'adolescence familiale, là on va penser la famille grosse, avec l'image du corps individuel et l'image du corps familial, mettant en jeu, tel qu'on a pu le voir à propos du tableau de Portinari, le narcissisme du moi groupal familial, tel que ce narcissisme peut être en souffrance. L'idéal du moi est aux contenances ce que le surmoi est au contenu, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, toute la clinique des contenances, la clinique de l'idéal du moi, c'est très dense, très compact comme formulation, mais c'est très important parce que la clinique de l'idéal du moi, c'est la clinique de la honte et de l'humiliation, et que tout ce qui va être en jeu dans les problématiques de transmission inconsciente et généalogique vont nous intéresser en particulier autour de la question de la transmission de la honte et de l'humiliation et ses enjeux dans le scénario préconceptionnel. Donc là, on va entrer dans un autre monde qui a la particularité de créer un moment d'hilarité. Ce sont des mailles. Alors, je vais dire que les mailles, c'est uniquement des liens. Et des liens uniquement psychiques. Ce sont des liens psychiques. Et pour moi, il n'y a que deux types de liens. Il y a les liens de filiation et les liens d'affiliation. Le mot lien est utilisé comme un mot valise. Hein? Moi, je recentre la notion de lien psychique uniquement à la filiation et à l'affiliation, c'est-à-dire à ce qui me situe dans la filiation par rapport à mes ascendants et mes descendants, c'est-à-dire le lien de filiation verticale, et horizontalement, qui me situe par rapport à mes appartenances, au sens d'où j'en fais partie, de ce groupe-là, de façon synchronique. Donc un axe diachronique et un axe synchronique. Ces deux axes sont les axes qui m'articulent en tant que sujet à l'ensemble de mes liens. Le mot lien, vous savez ce que ça veut dire, hein? Le lien, et ça c'est fondamental pour penser la périnatalité, pour penser le couple, pour penser la famille. Hein? Le lien, ça n'est pas, par exemple, entre madame et monsieur, voire entre madame et madame, ou entre monsieur et monsieur, ça n'est pas ce qui est, ça n'est pas madame et monsieur, c'est ce qui relie madame et monsieur. Et ce qui, en le reliant, a une particularité, c'est de créer un nouvel ensemble. C'est ça, la définition qui me semble importante à penser du lien, c'est que ça crée de nouveaux ensembles. Donc, par exemple, ce qui fait que on va parler de lien de couple, c'est que ça crée un ensemble particulier qui est le couple. Ça veut dire qu'il va y avoir un moi-couple avec des propriétés de couple, un appareil psychique de couple, une organisation générale de couple, avec effectivement un dehors, un dedans par rapport à ce qui est le couple. Et là, on va avoir donc un des mailles construites par des liens. L'ensemble des mailles va construire ce que je propose d'appeler un. L'ensemble des mailles, ça fait un maillage. Un maillage. Et donc ça, c'est quand vous verrez ce mot maillage psychique et généalogique, vous repenserez à moi. Donc un maillage. Et si j'utilise toujours cet objet métaphorique, d'abord c'est parce que tout ce que je suis en train de vous dire est à penser dans une épistémologie de la complexité. Et l'épistémologie de la complexité, elle ne se pense qu'à travers la métaphore. Hein? Et donc on est dans un objet métaphorique qui effectivement montre avec ses mailles qu'on n'est pas uniquement sur un unidimensionnel, mais pluridimensionnel, qui a l'extraordinaire richesse de montrer que ce maillage produit ce que vous avez appelé de façon merveilleuse un filet. C'est-à-dire qu'il a une fonction contenante. Voilà. Ça veut dire, et ça c'est énorme que de dire ça, on ne se rendra pas facilement compte de l'importance de ça, ça veut dire que le contenant c'est du lien et rien que du lien. Le contenant qui va construire effectivement les limites du dehors-dedans, de l'appartenance, de l'identité, et qui va construire, effectivement, en même temps, les limites de l'appareil psychique. C'est-à-dire qui va assurer la fonction contenante au sens de Bion, à savoir, je vais vite, c'est entendable plus facilement pour les gens déjà un peu préparés, c'est-à-dire une fonction susceptible d'assurer des transformations psychiques. Donc, la maille, c'est une unité de contenant généalogique. Alors on est, comme je le note, dans la continuité des travaux, entre autres, évidemment, de René Caes, et on est dans la référence psychanalytique groupale. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais repenser le lien dans une approche que je développe depuis moins de temps, à savoir le lien dans une approche pas psychanalytique seulement, mais encore que ça soit complètement articulé, mais dans une approche sémiotique. C'est-à-dire le lien pensé comme une écriture, comme une inscription, hein, et comme le support de cette inscription. Hein. Et alors ça va être très important parce que là il manque un E. En fait, ça va nous permettre entre autres de penser, bon on ne peut pas modifier comme ça, de penser que le lien est une écriture et que le lien est sexué et qu'il va inscrire le sujet de telle manière qu'effectivement on va voir des lisibilités, des non-lisibilités, des mal-visibilités de cette écriture et que c'est autour de cela qu'on peut avoir une nouvelle lecture de la clinique. Si on a le temps, je vous donnerai un exemple. Mais ce qui est surtout important pour moi, c'est un aphorisme que je propose, c'est le lien n'est pas la relation. Donc je dis le lien, ça y est, je me situe, mon père, ma mère. Alors, un truc très important qui est pour moi fondamental, et en particulier dans le débat actuel, le lien est un lien psychique étayé sur le biologique. Étayé, ça veut dire que le référentiel sur lequel, je parle du lien de filiation, hein. Le lien de filiation est en référentiel sur le biologique. Autrement, tout ce qu'on dit de la question du lien n'aurait pas de sens. Ça n'est pas un lien biologique, c'est un lien psychique. Alors, fondamental de penser que le lien, c'est tout autre chose que la relation. C'est-à-dire que je peux avoir avec mon fils des soucis, on peut s'engueuler, à l'adolescence par exemple, mais mon fils, c'est mon fils. Et pour lui, je suis son père. C'est-à-dire, du point de vue de l'écriture du lien, je peux avoir X conflits relationnels, je n'ai pas des conflits de lien. La clinique du lien et la clinique de la relation sont radicalement différents. C'est fondamental. La clinique du lien, c'est la clinique des contenants. La clinique de la relation, c'est la clinique des contenus. Ça, c'est tout à fait fondamental. Bon, je n'ai pas le temps de vous détailler, mais ça va être très important pour penser aussi à la périnatalité. Qu'est-ce qui va en être dans des enjeux de liens qui peuvent être beaucoup plus fondamentaux dans leurs effets, même s'ils ne sont pas spectaculaires, alors que des aspects de relations peuvent être spectaculaires qui n'ont pas d'incidence fondamentale du point de vue de la construction du contenant psychique. La particularité du lien est d'être vecteur et support de cette transmission psychique généalogique inter- et transgénérationnelle. Vous savez qu'on appelle intergénérationnel quand il y a transmission qui passe d'une génération à une autre avec un effet de transformation, alors que dans la transgénérationnelle, ça glisse, ça surfe à travers les générations sans transformation. J'ai différencié ce que j'appelle la trace et l'empreinte pour dire que la trace, c'est un peu comme s'il y a un support et on écrit dessus, alors que l'empreinte, c'est comme l'empreinte dans le sable quand on marche, c'est une empreinte en creux. C'est-à-dire que l'empreinte est typiquement ce qui va mettre en jeu la surface des contenants. C'est donc typiquement la clinique des contenants. Je m'amuse à illustrer dans l'histoire de la peinture Miro, qui est à mon sens celui qui va jusqu'au bout de la trace. Si vous allez à Barcelone, vous avez des immenses tableaux blancs avec uniquement une trace qui s'efface, qui s'efface, qui s'efface, qui s'efface. Mais c'est toujours de la trace. Dans la même ville de Barcelone, il y a tout autre chose. Il y a un monsieur qui s'appelle Tapies. Alors lui, il efface pas, il coupe, il traîne. Hein? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est carrément c'est un travail sur le support lui-même. Vous voyez que le travail sur le support, c'est le travail sur la clinique des contenants. Le travail sur la trace, c'est la clinique des contenus. Ça a des conséquences. Enfin, la lecture a des conséquences très importantes. Juste par exemple, la clinique des contenants, pour les gens qui s'intéressent un peu à la psychanalyse, et apparemment il y en a quelques-uns ici, la clinique des contenants va être tout à fait mise en jeu dans le travail sur le cadre, au sens des travaux de Bleger, où c'est le travail sur le cadre qui va nous permettre de dans les attaques du cadre, etc., de mettre en jeu des choses, alors que c'est tout autre chose dans les processus en thérapie. Donc vous voyez bien un peu en kaléidoscope cette dimension entre l'individu, le couple, la famille et le social, mais en parallèle, et ça j'ai mis du temps à le penser, en parallèle, il existe une autre transcontenance, la transcontenance entre le registre de l'intime, du privé et du public. Mais l'intime, le privé et le public peut être retrouvé chez l'individu, dans le couple et dans le social. C'est pas l'apanage. Parce que pendant un certain temps, moi-même, j'avais tendance à associer l'intime à l'individu, le privé au couple, alors que non, il existe un privé, un intime et un public au niveau aussi individuel. Également dans l'analogie avec l'adolescence, Finalement, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il existe une image du corps et que cette image du corps, elle se retrouve métaphoriquement analogue à la forme du maillage. Mais je vous ai dit qu'il existe une image du corps individuelle et une image du corps familial. Eh bien, en analogie à mon kaléidoscope, je vais penser l'image du corps individuel comme étayée par l'image du corps familial. Quand je dis image du corps, vous voyez que je peux glisser d'image du corps à contenant individuel. Hein? Donc je vais avoir ou appareil psychique individuel. Ce sont des glissements qui font écho. Hein? C'est ce que j'appelle des isomorphies. C'est-à-dire que là, je vais penser en quoi, à l'occasion de l'événement naissance, comme à l'occasion de l'événement adolescence, il y a une mise en tension du contenant psychique individuel. Cette mise en tension a la particularité en même temps. Le maître mot de cette histoire, c'est le en même temps. En même temps, de mettre en tension le contenant psychique groupal, en même temps. Or, le contenant psychique groupal, je vous ai dit qu'il était construit par du lien. Le lien, il est le support de la transmission psychique. La transmission psychique peut être élaborée, non élaborée. Je vais dire qu'un lien est fragile lorsque la transmission assure un passage d'un matériel psychique, soit non élaboré, ou on va dire mal élaboré. Hein? Donc, élaboré, c'est une manière de parler de la métabolisation au sens de Pierre Aulagnier, ou des processus de symbolisation, ou de pré-symbolisation, c'est tout ce travail psychique. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'occasion de l'événement adolescence ou à l'occasion de l'événement périnatalité, il va y avoir en même temps une mise en tension du contenant généalogique groupal familial, donc une mise en tension de l'ensemble de l'architecture des transmissions, de ces héritages, de tout ce qui est là, qui, bon an, mal an, tenait plus ou moins, mais qui, à l'occasion de cet événement, va être remobilisé, et un peu comme une maison dont les fondements sont plus ou moins assurés, va soit tenir le coup, soit pas tout à fait tenir le coup. Hein? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des mailles qui étaient fragiles, je parle de liens vulnérables, de mailles et de contenants fragiles, qui va, à cette occasion-là, se rompre. Et quand ça se rompt une maille, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait un trou. Ça fait à ce moment-là un contenant troué. Ça fait en tout cas un démaillage. Et une des formes de démaillage, ce sont les contenants troués. Hein? Ça fait un démaillage, et à ce moment-là, la question, c'est dans quelle mesure ce contenant qui est toujours, comme je vous l'ai dit à travers la métaphore du kaléidoscope, en équilibre dynamique de co-étayage, si ça ne tient plus le coup, à ce moment-là, ça est menacé dans son processus de développement et de croissance. C'est clair ? Hein ? C'est pour ça que c'est intéressant de le penser en analogie avec l'adolescence, parce que c'est plus facile de penser à propos de l'adolescence. Hein? Mais imaginez effectivement à ce moment-là que c'est des histoires qui tenait plus ou moins le coup, hein, autour des enjeux de la conception, hein, vont se remettre en circulation. Et alors, dans ces histoires, évidemment, il y a tous les cadavres dans les placards, les secrets. Ce n'est pas tellement les secrets, c'est en quoi les secrets eux-mêmes sont l'expression de problématiques d'élaboration. Hein. Voilà. Et comment tout ça, ça se remet en jeu. Et effectivement, on va avoir tout le temps, à l'occasion de ces événements, une mise en jeu d'une bifurcation qui va faire crise. Il y a tout le temps crise. Il ne peut pas y avoir périnatalité sans crise. Mais crise, ça veut dire que ça tire, mais que ça tient. Voilà. La crise, ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture. Ça veut dire que le contenant reste fiable. Hein? Et donc, les processus psychiques en jeu à l'occasion de cet événement biologique, psychologique, social, qui est l'anamorphose de périnatalité, hein, soit elle tient le coup. Si elle tient le coup, on dit qu'effectivement, on est dans une périnatalité, une crise, la crise périnatale, comme un processus qui n'est pas pensé ni en positif ni en négatif, mais un processus de dynamique et de mise en tension. Alors, j'ai proposé un autre mot que j'appelle en crise. Toujours à propos de l'adolescence au départ. L'adolescence en crise, c'est lorsque la mise en tension met suffisamment en tension les vulnérabilités et se traduit par un trou. À ce moment-là, c'est donc un démaillage. À ce moment-là, dans le cas de l'adolescence, c'est là où il va y avoir des symptômes portés par l'adolescence comme symptômes de remaillage qui vont participer à réétayer, puisque c'est un réétayage permanent, réciproque. Hein? Il y a un coétayage permanent. À ce moment-là, il va y avoir des constructions symptomatiques qui vont être dans des formes d'expression diverses et on pourra en parler entre nous. Ce qui me semble intéressant, c'est aussi de penser non seulement la situation du contenant troué, mais du contenant déchiré. À ce moment-là, on n'est plus dans un. C'est-à-dire, c'est carrément décontenancé. Hein? Là, on est dans ce que j'appelle un démaillage catastrophique. Alors, je m'amuse à penser la catastrophe un peu comme lorsque il y en a moins maintenant, ces fameux bas de femmes, là, quand il commençait à y avoir un. Ça commençait à filer, à se démailler. Ça faisait. Hein? Catastrophe. Hein? C'est-à-dire, effectivement, ça. Alors, ce c'est très scientifique. C'est René Thom qui appelle ça, à travers la théorie des catastrophes, le fait que quand il y a un événement qui commence à évoluer, à ce moment-là, il est spontanément irréversible. Hein? Et donc, j'emprunte le concept de catastrophe à René Thom et au Barésie, Dîmes. Hein? Mais je l'emprunte aussi à un monsieur qui s'appelle Bion, qui, lui, à propos du lien, a aussi parlé des phénomènes catastrophiques dans les attaques du lien. Alors, ce qui m'a semblé fascinant, c'est que ces plaisanteries-là correspondent à de la clinique. Alors, en tout cas, c'est évident à propos de l'adolescence, et ça me semble extrêmement intéressant à penser à propos de la périnatalité. À propos de l'adolescence, la catastrophe va avoir comme particularité de faire qu'il ne. Autant dans le contenant troué, on est dans l'encrise et il y a un porte-symptôme qui va être éventuellement une anorexie, etc. Dans la catastrophe, il n'y a pas un symptôme, ça ne suffit pas. Donc tout se passe comme si il faut sans arrêt essayer de s'accrocher pour essayer de remailler, pour tenir, pour éviter, pour permettre le stoppage. Alors ça, ce qui est fascinant, c'est que cliniquement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on passe d'un symptôme à un autre, il y a plusieurs porte-symptômes, et on passe de plusieurs porte-symptômes du registre psychique à des porte-symptômes dans le registre somatique et dans le registre du social. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des déstructurations du lien social. Là, pour nous, en périnatalité, ça va être extrêmement intéressant, parce que ce qu'on croit être des problèmes sociaux en périnatalité sont des problèmes psychiques. Et que la grande majorité des psychologues, pas des psychologues, des psychiatres disent ça c'est du social, allez voir l'assistante sociale. Or, on est dans une clinique psychique du lien social que les professionnels du lien social se coltinent sans en avoir les formations, les outils conceptuels, et que jusqu'à présent, en tout cas j'essaye de le faire partout où je peux, il y a encore trop peu de psychologues et encore moins de psychiatres qui s'intéressent à la psychanalyse vraiment du lien social comme un vrai travail psychique. Et ça suppose des prises en charge très, 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 très spécifiques. Alors, donc je vous disais, plusieurs porte-symptômes, plusieurs registres, et en particulier, penser à des expressions dans le corps, donc des somatisations. Alors, c'est au même moment où on va voir le grand-père qui fait des trucs comme ça, et on voit effectivement ces processus, où on dit, mais c'est pas possible, quoi. Hein. Famille à problème, qu'on appelle famille à problème multiple, etc., plein d'enfants, de trucs, etc. Crise en crise ou catastrophe, donc je reprends ce que je viens de dire. Hein. La crise, le contenant familial peut contenir la transformation. L'encrise, le contenant familial est troué et défaillant. La catastrophe, on est dans la déchirure des contenants. Alors, dans une des formes d'expression comme ça, de symptômes troués, ça va être justement le fait que la clinique des contenants troués va être une clinique essentiellement du vide. C'est la clinique du vide. Hein? Alors, je différencie la clinique du manque et la clinique du vide. Alors, je n'ai pas trouvé un autre mot que le mot manque. C'est un peu malheureux parce que dans la terminologie lacanienne, le mot manque veut dire autre chose. Donc là, ce que je veux dire, c'est soit il n'y a rien dedans, mais il peut y avoir rien dedans de deux possibilités. Hein. Soit parce qu'il y a un trou et que ça coule, soit parce que j'ai rien mis dedans. La clinique des contenus n'a rien à voir avec la clinique des contenants. Hein. Donc, ça va nous amener à penser la clinique de la périnatalité en clinique d'une périnatalité en rapport avec les problèmes de contenant et la clinique de la périnatalité en rapport avec les problèmes de contenu. La clinique de la périnatalité en rapport avec les problèmes de contenant, c'est celle qui va être concernée par les problématiques de lien et de transmission. Alors, pour moi, le contenant, c'est en même temps, c'est le corps. Hein? Bon. Eh bien... Ça va se manifester justement par ces symptômes de grossesse multiple répétée, ces femmes qui sont tout le temps enceintes, comme des formes de remplissage permanent. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une lecture clinique typique là d'une problématique de contenant ou de contenu ? De contenant. Hein ? Donc, voilà. Donc, si vous amusez à travailler avec une femme qui fait des grossesses sans cesse comme ça, en lui donnant des conseils, etc., vous pouvez aller vous coucher, quoi. Parce que l'enjeu n'est pas là. Ça parle d'autre chose. Ça parle d'autre chose. Ça parle, justement, les symptômes parlent de l'image du corps. Ici, là, comme d'un tonneau sans fond, comme un tonneau de Danaïde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, là, on a un équivalent. Un équivalent de quoi ? Pas un équivalent d'addiction. C'est-à-dire qu'effectivement, les addictions sont des cliniques du vide, comme trous, des cliniques de contenants troués. C'est-à-dire qu'effectivement, il en faut toujours pour remplir. Il n'y en a jamais assez. Hein, c'est du tonneau de Danaïde. Et c'est ce que j'appelle des symptômes leurre, L-E-U-2-R-E. Pourquoi leurre ? Parce que ça traite un problème de contenant comme si c'était un problème de contenu. Voilà. C'est ça ce que j'appelle le symptôme leurre. La clinique du leurre, c'est traiter un bateau troué en se contentant d'écoper. Le symptôme leurre trompe le vide. Les stratégies thérapeutiques de contenu ne sont pas les stratégies de traitement de contenant. Exemple d'un leurre à travers, par exemple, les grossesses familiales, les addictions. Alors effectivement, pour bien comprendre que ce sont deux cliniques qui témoignent de problématiques complètement différentes et qui supposent des approches cliniques et thérapeutiques radicalement différentes, je prends la métaphore du bateau, justement. Si un bateau coule et qu'il est intègre, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a trop d'eau. On écope. Écoper, c'est une stratégie de gestion de contenu. Voilà. Donc vous voyez que, du point de vue de la métaphore, la problématique périnatale en termes de contenant va supposer des approches qui vont être radicalement différentes. Hein. Reste que, habituellement, on ne pense pas comme ça. Donc, tout l'enjeu va être de voir comment on va penser la périnatalité catastrophe, ce que je vous ai dit, avec plusieurs symptômes, etc. Et dans ce genre d'approche de la catastrophe, effectivement, eh bien, lorsque on est avec un contenant ici qui est catastrophiquement démaillé, hein, eh bien, c'est là particulièrement où on va penser à mettre en place un travail de remaillage transcontenant à travers la mise en place de toutes les conditions d'un maillage réseau comme un maillage d'étayage transcontenant. C'est là où la dimension du réseau périnatal est fondamentale. C'est là où la dimension réseau périnatalité, elle est pas ça, simple. Elle va être pensée pas simplement en termes de réseau de correspondants, de noms d'adresse, qui est tout à fait intéressant, mais en termes d'une véritable économique de contenance du lien psychique. Le scénario généalogique conceptionnel va s'inscrire dans toute cette économie-là. Je l'ai pensé à l'époque, dans les années 94, à travers ce que j'avais rédigé et écrit, que j'avais appelé le scénario généalogique de la violence et de l'inceste, au sens où il est évident qu'on ne peut pas ne pas être impressionné de voir un certain nombre de situations qui se répètent. Que j'ai repris à travers la notion de scénario généalogique de la porte la honte, que je vous avais un peu annoncé, où effectivement, il m'apparaît que ce qui se répète est en rapport avec essentiellement des problématiques d'inélaborés du côté de l'inavouable et de la honte, et de la transmission de la honte inconsciente et pas de la honte consciente. Ça, je ne peux pas vous le détailler tout de suite. Qui nous permet à ce moment-là de repenser la notion généalogique à propos de la dimension préconceptionnelle telle qu'on peut la penser, pas comme une simple transmission, comme on dit, transmission générationnelle. Par exemple, s'il y a un truc qui me donne des boutons, c'est la psychogénéalogie. Pourquoi ? Parce que ça ressemble beaucoup à tout ce que je dis, et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Psychogénéalogie, on est dans un modèle linéaire, complètement dans un déterminisme comme ça, et que tout ça, il faut le penser dans une approche de la complexité. Je dis un mot du concept de diffraction, qui est une notion que je crois éclairante. La diffraction, c'est la lumière blanche qui se diffracte à travers un prisme en différentes longueurs d'onde de plusieurs couleurs. Bien, métaphoriquement, j'utilise cette image-là pour penser la diffraction généalogique, et en particulier dans la fratrie. C'est-à-dire que chacun se retrouve héritier d'un aspect de longueur d'onde diffractée de la transmission psychique, qui fait que chaque enfant, même si ce sont les mêmes parents, qu'ils ont eu la même éducation, je dirais même si ce sont des jumeaux, hein, eh bien, ils sont toujours héritiers d'une diffraction. Ils ne sont pas héritiers d'une partie du gâteau, ils sont héritiers d'une partie des ingrédients qui construisent le gâteau. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est fondamental pour penser les choses. En particulier, voilà. Et ça, eh bien, en clinique, ça se traduit, entre autres, dans la clinique de la fertilité et de l'infertilité. J'ai eu l'occasion, j'ai fait un drôle de psychiatre qui a une formation de stérilité, et j'étais impressionné de voir effectivement comment un certain nombre de fertilité et d'infertilité pouvaient être d'abord difficiles à prendre en charge au-delà des dimensions somatiques, avec des histoires, je repense à des choses qui se construisent comme de véritables mythes de malédiction. Mais on va voir également dans ces scénarios des manifestations sur l'organisation le vécu même de la grossesse. Et dans ces modalités, je pense que dans la discussion, ce sera intéressant qu'on puisse l'évoquer, avec un certain nombre de manifestations de prématurité, de césarienne, qui sont comme ça dans des effets de... qui témoignent de cette répétition et qui témoignent de l'économie de la répétition. Juste une anecdote, à propos de césarienne, c'est cette femme qui va voir une gynécologue proche de moi, qui témoigne d'un vaginisme, et la gynécologue, alors qu'elle est enceinte, pas la gynécologue, la patiente est enceinte, elle lui dit, vous savez, qu'un vaginisme, il y a des chances que ce ne soit pas évident, l'accouchement, comme ça, et qu'il puisse y avoir éventuellement une césarienne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, elle a une césarienne, mais surtout, c'est que à la sage-femme qu'elle voit après la césarienne, elle lui dit, c'est normal, non seulement ma gynécologue me l'avait dit, mais c'est normal parce que ma mère a une césarienne, ma grand-mère a une césarienne, et donc on a tous des césariennes. Elle s'inscrit comme une espèce de continuum mythique. Là, il y a un scénario dans lequel elle s'inscrit. Alors, je voulais vous dire quelque chose sur la dimension de l'inscription dans le scénario. À propos d'une histoire dans une famille kanak, c'est toujours intéressant quand on est dans des contextes différents parce qu'on voit des choses qu'on voit moins dans notre propre contexte. C'est l'intérêt de l'anthropologie. Et là, on voit comment, avant de naître, cet enfant... il avait non seulement une histoire, un destin, et comment la manière de s'inscrire en tant qu'enfant était complètement construite avec les aléas de la manière dont le couple s'est construit, à savoir que du côté du père, il est le dernier d'une lignée, et donc le seul qui peut porter le nom. Or, c'est fondamental chez les Kanaks qu'il y ait quelqu'un qui puisse être l'héritier du nom. Mais pour qu'il porte le nom, il fallait que le couple se marie. Or, les deux familles sont dans une guerre généalogique, tribale, comme ça, et il pouvait pas se marier et de toute façon, il y avait un truc qui faisait qu'il pouvait pas se marier avant que son frère est né ce mari. Or, c'était très important qu'il porte ce nom parce que non seulement il était le dernier né, mais qu'il était le dernier né de la famille des grands chefs, comme ça. Donc, c'était, enfin, l'enjeu était fondamental. Et ce qu'il y a eu d'assez extraordinaire, c'est que après 1000 déboires, finalement, ils ont décidé de se marier et le marié est mort la veille du mariage. Je veux dire, c'est comme tout ça nous ramène à des espèces de tragédies grecques, comme ça. Il est évident que dans le scénario préconceptionnel, on ne peut pas ne pas penser, entre autres, de ces répétitions de grossesse, d'adolescence, de ces répétitions de mère qui se retrouve comme par hasard mère sans père pour l'enfant. Donc il y a comme ça cette espèce de scénario-là qui, plutôt que d'être pensé comme uniquement des destins liés à une histoire individuelle, vous l'avez compris, me semble important à repenser dans la groupalité périnatale. Je vous remercie.